Le roman des poètes, l'émission vagabonde de la BIP. Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Si la poésie no te ayuda a vivir, haces otra cosa.
If poetry doesn't help you to live, then do something else.
Se la poesia non vi aiuta a vivere, allora fate qualcos'altro.
L'émission quinzomadaire de la BIP, brigade d'intervention poétique, Michel Armatz et compagnie. Une émission pour raconter la vie des grands poètes, connus ou pas connus. Avec au gré des émissions, les voix de Charo Beltran, Thérèse Bonetta, Cécile Combredet, Florence Mourieras et messieurs Christian Boisson, Jean-Claude César, Yves Flanck, Julien Gill, Marc Pastor, Patrick Vendrin et Michel Arbatz.
Si la poésie vous aide pas à vivre, faites autre chose.
Bonsoir. Robert Desnos est encore notre invité pour cette émission. Robert Desnos, dont nous suivons la vie tumultueuse et aventureuse, nous l'avons laissé au début de la guerre, à la déclaration de guerre en 1939, et nous allons le suivre jusqu'à sa fin, puisque on connaît la destinée tragique de Robert Desnos, qui est un de nos grands poètes morts en déportation, mais c'est un destin assumé, puisque depuis le début, il s'est toujours affirmé comme un résistant sous toutes sortes de formes. Donc Desnos s'est mobilisé en 1939, il va rejoindre dans un bataillon la ligne Maginot, et il vit comme beaucoup d'ailleurs, beaucoup d'écrivains, comme René Char d'ailleurs, comme Claude Roy, comme plein ont pu témoigner sur cette période, cette drôle de guerre dans laquelle rien ne se passe, ou Georges Navelle aussi, qui ont écrit sur ces moments d'attente et en même temps de grande démobilisation intérieure, puisque petit à petit, le gouvernement pétainiste va reculer, comme on sait, pas à pas. On sait que Desnos, donc, sans avoir jamais adhéré au Parti communiste, était très proche des partis de gauche, en tout cas qu'il s'est affilié à plusieurs mouvements de la gauche, et en particulier, on a vu comme il s'était investi dans la solidarité avec les républicains espagnols. Desnos, au retour donc de cette drôle de guerre où il ne s'est rien passé, où il a laissé Yuki toute seule à Paris, Desnos va revenir et il va tenter de vivre une nouvelle vie, puisque les moyens de subsistance se sont considérablement réduits. Il n'a plus, enfin son émission, comme on va l'entendre mieux développer, a été liquidée, son émission à la radio. Il va quand même garder son poste de journaliste le plus longtemps possible, comme on va le voir. Donc, un petit tour dans cette ambiance sombre des débuts de la guerre, de la fin de l'année 39, avec quelques actualités et la voix de Robert Desnos.
11 novembre 1940, jour de deuil, un jour que nous devons dédier à nos morts de guerre. À 11h, ce matin, M. le maréchal Pétain, chef de l'État français, nous montrait dans la cathédrale de Clermont-Ferrand l'exemple d'une émotion intense et digne d'un pieux recueillement où se lisait l'espérance. Touché déjà par les ovations qui étaient montées tout le long de sa route, lui seul a pénétré dans le cœur, où, juste à droite, il s'est assis. La cérémonie était simple.
Je n'aime plus la rue Saint-Martin, depuis qu'André Platard l'a quittée. Je n'aime plus la rue Saint-Martin, je n'aime rien, pas même le vin. Je n'aime plus la rue Saint-Martin, depuis qu'André Platard l'a quittée. C'est mon ami, c'est mon copain. Nous partagions la chambre et le pain. Je n'aime plus la rue Saint-Martin. C'est mon ami, c'est mon copain. Il a disparu un matin, ils l'ont emmené. On ne sait plus rien, on ne l'a plus revu dans la rue Saint-Martin. Pas la peine d'implorer les saints. Saint-Méry, Jacques, Gervais, et Martin, pas même Valérien qui se cache sur la colline. Le temps passe, on ne sait rien. André Platard a quitté la rue Saint-Martin.
La rue Saint-Martin, c'est aussi le quartier d'enfance de Robert Desnos. Desnos rentre dans un Paris qu'il a du mal à reconnaître, hein, puisque les drapeaux avec la croix gammée commencent à flotter un petit peu partout. Eh bien, que va-t-il faire à ce moment-là? Je suis allé demander à Marie-Claire Dumas, l'éditrice de presque toute l'œuvre de Robert Desnos chez Gallimard, qui a aussi consacré une très grande partie de sa vie et beaucoup d'énergie à la fois à faire mieux connaître son œuvre et aussi le souvenir de l'homme. Je suis donc allé demander à Marie-Claire Dumas de nous parler un peu du rôle de Robert Desnos au journal dans lequel il travaillait. Alors, on demande aux auditeurs de nous excuser, la qualité du son n'est pas extraordinaire, mais enfin, c'est pas tous les jours qu'on peut entendre Marie-Claire Dumas parler de Robert Desnos.
Il faut dire d'abord que pour survivre à cette époque, quand il est rentré après la défaite de juin 40 à Paris, il avait perdu son travail, qui était à formation et publicité. Il dirigeait une équipe de publicitaires. Sa dernière émission célèbre, La Clé des Songes, était close. Il n'y avait plus de possibilité. Alors, il a accepté de travailler dans le journal Aujourd'hui que créait son ami Henri Janson. Avec l'illusion, ou en se donnant pour prétexte les uns et les autres, Janson, Desnos, qu'ils pouvaient être appuyés par un financement qui ne dépendait pas de l'occupant, et donc ils auraient une certaine liberté de parole. Ils l'ont eu quelque chose pendant même pas un mois. Henri Janson ayant, comme directeur de la publication, refusé de faire l'éloge de la poignée de main de Montoire, et l'éloge des premières mesures de Vichy contre les Juifs, Henri Janson a été sorti de la tête du journal et mis en prison, et remplacé quelques semaines après par Georges Suarez, qui lui était favorable à la collaboration. Peut-être pas l'entendre immédiatement totalement négativement, mais enfin pactisé tout de même avec l'occupant, hein, puis ça n'a fait que s'accentuer. Ceci dit, les gens qui lisaient Aujourd'hui à l'époque, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, vous savez, parmi les journaux de l'époque, quand même, on y respirait encore un peu de liberté dans le journal. Quoi qu'il en soit, Desnos est resté. C'est là qu'on peut s'interroger, puisque le journal était désormais sous la coupe totale de l'occupant. Il y est resté parce qu'il fallait continuer à vivre. Il faisait Viviuki à Paris, ils étaient bloqués là, ils n'avaient pas d'issue. Et vite, il s'est donné une règle, me semble-t-il, qui était de accepter de rester là, mais en essayant d'y mine de rien, comme il a dit, de ménager comme des fenêtres de liberté, des signes de liberté, des signes de résistance. Ça, ce n'est pas faire partie d'un réseau, c'est simplement une réaction personnelle d'anarchiste, si vous voulez. Il y a à côté Anar qui reste jusqu'au bout. C'est comme ça qu'il va d'ailleurs se prendre de bec avec Céline, dont il ne fait pas l'éloge pour les beaux draps. Bon, Céline l'accuse par une sommation dans le journal d'être filouillou, transjuivée, etc.
Oui, il y a cette fameuse lettre où il dit voilà. La nature signe ses œuvres.
Voilà, et la nature signe ses œuvres, il n'a qu'à publier son portrait de face et de profil. Et bon, Desnos avait un visage qui était peut-être, qui pouvait évoquer, il avait un nez assez proéminent et des bouches, quoi qu'il en soit, qui pouvait se rapprocher de ce qui va devenir une espèce de portrait robot du juif à Paris. Mais Desnos a imperturbablement signé Robert Desnos, dit Robert Desnos, en s'adressant à Louis Destouches, dit Ferdinand Céline. Enfin bon, il y a eu une polémique, il faut lui donner sa juste place. C'est début des années de l'année 41, et Céline, Il faut le dire clairement, ce n'est pas ça qui a envoyé Desnos dans les camps et en déportation. Ce n'est pas cette... Mais en revanche, ce que montre bien cette prise de bec, c'est que Desnos, tout en étant dans un journal collabo, ne baissait pas pavillon.
Une flamme s'accrut, monte du sol natal, puis la France s'enivre de sa lumière échappe. Tous des enfants qui dèrent divinèrent des bas à ton appel suprême, ont répondu présent. Maréchal,
nous voilà,
devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous t'égards, de servir et de suivre tes pas.
Maréchal Duconneau se page avec méfiance. Il rêve à la rebif et il crie au charron, car il se sent déjà logdu et marron pour avoir arnaqué le populo de France. S'il peut en écraser, s'étant rempli la panse, en tant que maréchal à Mahousse ration, peut-il être à la bonne, ayant dans le croupion le pronostic des fumerons perdant patience? À la péter les vieux et les mignards calanches, les durs bossent à cran et se brossent le manche. Maréchal Duconneau continue à pioncer. C'est tarte, je t'écoute, à 86 berges, de se savoir vomi comme fiotte et fauderge. Mais tant pis pour son fade, il aurait dû clamser.
Et donc, Desnos se met à écrire des poèmes en argot, mais assez virulents, contre Pétain. Il en a fait d'autres?
Et moi, j'en ai pas trop entendu d'autres.
Ah ben si, il y a quand même Pétrus d'Aubervilliers.
Voilà, il y a toute cette série.
Il y a une petite série de poèmes en argot.
Oui, sur hein. Bagnolet aussi.
Peut-être tu peux nous dire un peu, là, parce que c'est du chinois.
Par contre, Pétain, pas tellement, je sais pas.
En argot, qu'est-ce que ça veut
dire? Là, il y a des termes, par exemple, qu'on connaît tous encore. Se rebiffer, on voit bien se réagir violemment. Le charron, par exemple, crier au charron. Desnos choisit probablement pour la rime charron, parce qu'il y a beaucoup d'autres termes. Le charron, c'est celui qui répare les charrues. Les charrues conduites par les chevaux, qui les réparaient ou qui les construisaient. Mon grand-père a été charron, par exemple. Et on criait au charron parce que les accidents des cieux étaient très très fréquents sur le pavé parisien. Bon, arnaquer le populo, tout ça, l'ogdu, on voit bien, hein, pauvre, marron, être marron, on le connaît encore aujourd'hui. Il a des petits abus aussi. Par exemple, il parle des fumerons. Alors, le pronostic des fumerons. Fumeron, ça a deux sens. Ça, en argot, c'est... c'est être fumasse, c'est réagir violemment, c'est le coup de poing, c'est... Mais le fumeron, c'est aussi... c'est le pauvre type qui ne se chauffe qu'au fumeron. Le fumeron, c'est le bois mal séché.
D'accord.
Et le maréchal à Mahousse ration, où est-ce qu'il nous emmène, là?
Bah là, on est dans le mess des officiers, hein.
Ah,
le
ouais.
Type privilégié qui mange bien, alors que
ouais.
Pour le bidasse moyen, alors pioncer, tout le monde sait ce que c'est, hein, bien sûr. Il y a des petites choses comme ça, à la péter les vieux, hein, c'est casser la croûte, hein. C'est,
ah bon,
alors on descend, il y a manger, casser la croûte c'est en dessous, et péter c'est quand on n'a rien à manger.
Ouais.
Il y a un petit truc aussi sur lequel il joue et qui est un petit peu ambigu, c'est les mignards. Les mignards, bien sûr, c'est le gnard, c'est l'enfant, mais ça vient de des mignards et des mignardises. Les mignards, ce sont les aristocrates qui montent à l'échafaud avec l'œillet. Et puis c'est un mignard, l'œillet c'est un mignard. Et ensuite, un petit peu plus loin, le mignard, c'est le gars efféminé, qui a des manières, qui est par extension, comme ça. Et on va parler de mignardise aussi, c'est le lieu où on s'amuse avec des prostituées, des mignons. Et puis alors, là, il l'utilise au sens... c'est souvent ça, l'argot, d'ailleurs. L'argot, c'est pas des mots populaires. c'est un mot populaire encore déformé.
Voilà, mais c'est peut-être là que justement Desnos, enfin l'amour de Desnos pour la langue populaire et pour aussi l'esprit populaire trouve toute sa place, parce que il se sert de tous les sens accumulés qu'il y a derrière chaque mot, parce que ce sont des métaphores. Et effectivement, au départ, l'argot c'est plutôt un langage secret, c'est plutôt un langage de groupe, enfin un langage identitaire, comme Villon d'ailleurs s'est servi. D'ailleurs, Desnos vers la fin de sa vie dit il faut retourner à Villon, et il va pendant toute cette période utiliser des formes d'une très grande variété. Il faut dire quand même qu'au moment de la guerre, Desnos se met à écrire avec une abondance incroyable des choses très différentes. Hein. Il va écrire des romans, il va écrire des poèmes pour enfants, il continue à collaborer tant qu'il peut au cinéma en tant que dialoguiste, hein, puisque le jour de son arrestation d'ailleurs apparaissent sur les rues de Paris les affiches d'un film au titre prémonitoire « Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs », dont il avait écrit les dialogues. Et puis surtout, il va se mettre à écrire des poèmes à la fois de forme très classique, des sonnets, et puis dans les derniers textes, Calixto, Contrée, il va même écrire des textes en alexandrin ou en octosyllabe, avec des strophes de la langue classique la plus parfaite, alternées avec des parties en argot.
Et les parties en argot, comme Maréchal Duconeau, ça circule comment ?
Alors, bon, à l'époque, ça, il doit publier, enfin, des choses comme ça, je ne sais pas, je pense qu'il a commencé à faire circuler des textes aussi sous le pseudo de Valentin Guillois. C'est sous ce nom-là, d'ailleurs, qu'il a publié Le Veilleur du Pont au Change. Pour cela, à la caille, là, vous me prenez en défaut, je ne sais pas. Alors, de toute façon, ce qui est certain, et on va le voir dans la suite des explications que nous donne Marie-Claire Dumas, c'est comment il continue, tout en étant au journal, à assumer un double rôle et à peser toujours ce qu'il peut faire passer, ce qu'il ne peut pas faire passer.
Je pense qu'une chose l'a vraiment ébranlée, c'est la rafle du Veldiv en juillet 42, et que là, sa décision a été prise, vraiment prise, d'entrer dans une action de résistance, de rencontrer des gens avec qui il pouvait travailler. Il a rencontré quelqu'un qui s'appelait Michel Ollard, qui était d'une toute autre origine intellectuelle, qui était un résistant de la première heure, qui s'était engagé en 14 alors qu'il avait 16 ans. C'était un patriote au sens on défend la patrie, on défend la France, et au fond le sort des Juifs pour Michel Ollard n'était pas un problème. Mais ils se sont rencontrés, Michel Ollard avait l'art d'embaucher des gens dans son réseau après un contact personnel. Comment ce contact a eu lieu, je ne sais pas, mais en tout cas Ollard a senti en Desnos quelqu'un en qui il pouvait faire confiance et qui pouvait lui apporter, par son métier de journaliste et les informations qu'aujourd'hui recevait à la fois de Vichy et de Berlin, qui n'étaient pas filtrées au moment où elles arrivaient au journal, qui pouvait apporter au réseau de Michel Ollard, qui était un réseau de renseignement qui dépendait directement de l'intelligence service, hein, qui n'était pas un réseau, communiste par exemple, ou... que Desnos pouvait apporter des éléments. Et c'est ce qui s'est produit.
300 millions de papillons sont arrivés à Châtillon afin d'y boire du bouillon. Châtillon-sur-Loire, Châtillon-sur-Marne, Châtillon-sur-Seine. Plaignez les gens de Châtillon. Ils n'ont plus Dieu dans leur bouillon, mais des milliers de papillons. Châtillon-sur-Seine, Châtillon-sur-Marne, Châtillon-sur-Loire.
à manger son propre sang en tartine sur du pain, à boire l'eau de l'étang où les morts prennent leur bain, à prononcer des paroles nées de cœurs empoisonnés, à fréquenter les écoles des esprits emprisonnés, à marcher sur les chemins où l'on marche avec les mains, le Minotaure a vieilli, loin des siens et du pays. Il va retrouver les sphinx, les licornes et les lynx qui lui disent « Il est déjà tard, on a fermé l'enceinte. L'homme salera ton lard dans un coin du labyrinthe. Mugis encore si tu peux, Minotaure de rien, Minotaure de peu. »
La vie continue pour Robert Desnos. Les choses qu'on vient d'entendre, ce petit poème sur les papillons, sur Châtillon, et ce Minotaure, qui sont les deux, qui peuvent être emblématiques des deux faces de Desnos pendant cette période, complètement conscient de la barbarie qui s'installe, et en même temps affirmant la vie tout le temps, la vie continue, écrire, aider les amis. Ils vivent avec très peu, évidemment. Ils vont manger toujours dans un petit restaurant qui s'appelle Le Catalan. Ils rencontrent tous les jours Picasso. Il aide en particulier Antonin Artaud, qui est menacé en tant que gibier d'asile psychiatrique, et il le fait échapper vers Rodez, où il va être accueilli par le docteur Ferdière, qui est un ami. Et il va continuer à développer une activité énorme. Il va écrire autour de la peinture. Il va écrire ses petites chants de fleurs et chants de fables, dont sont extraits les 10 000 papillons dont on parle. On verra plus tard d'ailleurs que ces poèmes peuvent être entendus dans un double sens. Il va également écrire dans ces années-là un roman qui s'appelle « Le vin étiré » sur le milieu de la drogue, qui évoque évidemment ses histoires et sa relation ancienne avec Yvonne Georges, comme s'il avait compris qu'il doit régler des affaires, qu'il n'en a plus peut-être pour très longtemps à vivre. Il publie, je ne sais pas s'il publie, en tout cas il écrit « Calixto et Contrée ». On va encore entendre sous le même signe sombre ce texte qui s'appelle « Histoire d'un taureau ».
Taureau cornu, arqué, braqué sur la surface ensoleillée de l'arène, où la lumière est si éblouissante que l'on distingue à peine de leurs ombres le torero, le picador et les banderillers. Taureau, on n'attend plus que ton bon plaisir pour animer ce désert. Et ce désert animé que ton animation pour manifester l'homme. Mais il existe des taureaux de nuit avec la lune sur leur front. Des taureaux noirs, des taureaux blancs qui galopent à fond de train dans le sommeil des enfants et dont les mugissements ébranlent les villes et qui meurent dans les étoiles lentement en répandant leur sang dans l'immensité du temps.
Reviendrez me voir, dit-elle, quand vous serez riche à millions, quand les roses de Bagatelle sous la neige s'épanouiront, quand les roses de Bagatelle sous la neige s'épanouiront, lavant le sable des rivières, brisant le quartz, ouvrant le tronc des caoutchoucs à la lisière d'un enfer d'arbres au furon, libérant des nids de pétrole ou labourant les Alaskas. 80 ans la terre molle cacha le trésor des Incas. Quand il revint, elle était morte, Il était bête, il était vieux. Mais les amants de cette sorte ne sont pas tellement nombreux. Que fleurissent à Bagatelle les roses de poudre et de frima. Mais que fleurissent surtout celles que l'on aime jusqu'au trépas. Mais que fleurissent surtout celles que l'on aime jusqu'au trépas.
Donc son rôle de critique littéraire à aujourd'hui lui vaut quand même pas mal d'insultes et de violences de la part des écrivains comme Céline qui sont un peu suppôts du régime.
Oui, c'est ce qu'a évoqué un peu déjà Marie-Claire Dumas dans la première interview qu'on a entendue. Il y a un échange assez violent puisque quand Céline publie Les Beaux Draps, Desnos fait une critique où il dit Les Beaux Draps, c'est pas des beaux draps. Il la juge sur le plan de la littérature et alors évidemment Céline prend la mouche et écrit une lettre. Céline s'adresse à la direction disant « Votre collaborateur Robert Desnos mène une campagne philo-youtre », ce sont ces termes précis, et d'ailleurs il fait sous-entendre plus ou moins que Desnos est juif en disant « La nature signe ses œuvres, il n'y a qu'à le regarder de face et de profil », voilà, à laquelle, comme a dit Marie-Claire Dumas, il répond en disant « Voilà, je maintiens ce que j'ai dit et je signe Robert Desnos, dit Robert Desnos », comme si c'était, voilà, il y avait double identité dans la seule. Il écrit, mais en même temps, il fait aussi son travail de renseignement et il s'engage. Enfin, comme on l'a entendu, il va essayer de récupérer des tas d'infos qui arrivent par le journal, parce que le journal reçoit des dépêches de presse qui ne passent pas ailleurs. Donc c'est aussi pour ça que Janson probablement lui a demandé de rester sur place, parce que c'est un point stratégique. Et d'autre part, il va se rapprocher par Prévert d'André Verdet, qui a un autre réseau de résistance. J'avais rencontré André Verdet et je me souviens qu'il m'avait dit ça. On ne s'est jamais tant marré qu'à cette époque. Donc il faut penser qu'à l'aspect complètement duel de cette vie pendant l'occupation, ou à la fois avec des choses terribles, c'est-à-dire des gens qui disparaissent, André Platard qui disparaît de la rue Saint-Martin, mais aussi des fêtes, des gens qui continuent à essayer, malgré le rationnement, de se trouver de temps en temps un canard, faire fête d'une motte de beurre qu'on a récupérée, et puis rire et boire aussi. Donc il y a cet aspect-là, et puis il y a aussi le côté crypté un peu des textes de Desnos, comme Marc l'a évoqué à propos des textes en argot. Un comédien de l'Est de la France, qui s'appelle Yves Touvenel, a fait un travail remarquable de recherche autour justement des textes que Desnos avait écrits pour les enfants de ses amis, notamment les enfants de Paul-Élise de Harme, mais aussi les enfants de Darius Milhaud. Et il écrit ces chants de fleurs et chants de fables qui sont, que tout le monde a connus, la fourmi, etc., qui a ouvert notre série d'émissions. Et on peut essayer de comprendre, d'entendre derrière ces poèmes des doubles sens. La fourmi de 18 mètres, Yves Touvenel étant allé interviewer par exemple les cheminots qui avait vécu l'époque de la déportation, tout d'un coup réagit au fait qu'un cheminot lui dit « Oui, je me souviens très bien, les locomotives des trains de la déportation, c'était les T21, elles faisaient exactement 18 mètres avec leur énorme chapeau que faisait le tendeur derrière. » Tout d'un coup, on a un indice qui est donné là, et c'est très impressionnant de se dire que c'est tous ces poèmes qui n'ont l'air de rien et qui sont ceux par lesquels Robert Desnos est connu depuis la petite enfance dans notre pays, eh bien ces poèmes ont parfois un double sens, certainement un double sens, de même que les 300 millions de papillons sur Viry-Châtillon sont peut-être ces papillons qui étaient des tracts lâchés par les Anglais sur Viry-Châtillon. Justement, je crois que ça a été une des seules opérations de lâcher de tracts. Ça a été avéré aussi par une interview récente qu'on peut trouver dans le très beau DVD qui s'appelle Inédit, autour de Robert Desnos, et dans lequel un type qui était un jeune étudiant à l'époque rencontre Desnos pour une affaire d'échange de renseignements dans la résistance. Ils ont un temps à attendre avant de partir de leur rendez-vous pour des raisons de sécurité. Ils discutent de la pluie et du beau temps, et Desnos dit à un moment « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Je ne sais plus ce que faisait cet étudiant. En tout cas, à la question de l'étudiant, Desnos répond « Moi, j'écris des textes et je peux dire des choses qui n'ont l'air de rien et je peux dire beaucoup de choses à travers ces mines de rien », ce qui est le titre aussi d'un de ses recueils.
Desnos a été mis par Prévert en rapport avec un poète résistant qui était dans le Midi mais qui s'est installé, qui a été obligé de fuir le Midi où il était trop repéré, et il est venu à Paris. C'est André Verdet. André Verdet était un garçon qui faisait de l'action directe dans le réseau de combat. Et il a été mis en contact avec Desnos, et Desnos, dont le réseau de renseignement était en crise, a prêté la main au réseau d'action directe, donc au réseau de combat. Mais il semble que Desnos ait participé à deux ou trois actions avec André Verdet, dont une aurait réussi, faire sauter des munitions, un stock de munitions à Maintenon. Il a dû donner des renseignements sur ce qui se passait à Maintenon pour que le réseau agisse. Bref, Desnos a été arrêté le 22 février 1944, c'est-à-dire, semble-t-il, un jour après André Verdet, c'est-à-dire en même temps qu'André Verdet. Michel Hollard, qui était l'animateur du réseau Agir, avait été arrêté avec quatre des membres de la tête de ce réseau le 5 février. Ceci pour dire que c'est vraiment le moment début 1944, fin 1943, début 1944, où les réseaux tombent.
Océan en la calle negra y ahí el agua de río se estremece sobre las orillas. Océan en la calle negra, esa colilla tirada de una ventana hace una estrella. Todavía océan en la calle.
¡Apare las voces!
Se acerca hasta casi rozarnos, pero muere al momento de tocarnos. En algún sitio del mundo, al pie de un declive, un desertor palamenta con centinela.
Desnos aurait dit à Bessières, en fait, la Gestapo et la police m'ont interrogé, tabassé, etc. Pas du tout pour ce pourquoi ils auraient dû le faire. Je pense que Desnos, Quand il fait dire au veilleur du pont au change « Moi aussi, j'ai tué mon Allemand », j'ai longtemps pensé que c'était une manière de prendre la position d'un résistant qui était allé jusque-là en la faisant prendre par le veilleur du pont au change, qui était une image du résistant. À y bien réfléchir, et avec, si vous voulez, le temps et les interviews, on peut être amené à penser qu'en réalité, Desnos, à un moment, en 1944, a tué lui aussi son Allemand, tout simplement la nuit, dans Paris, puisqu'il avait, en tant que journaliste, un Auschwitz qui lui permettait de se déplacer la nuit. Aurait-il « Moi aussi, j'ai tué mon Allemand », il le dit deux fois dans « Le veilleur du pont au change ». Et à ce moment-là, le veilleur du pont au change, c'est lui-même, et pas simplement, ou pas plus généralement, la figure du résistant. Est-ce que c'est ça? C'est possible. Et qui aurait pesé très lourd, en fait, pour lui. Il faut dire aussi que dans cette fin 43, début 44, tout le monde sait qu'il va y avoir un débarquement. On ne sait pas où il va avoir lieu. Lui avait donné des renseignements sur la côte, en particulier la côte du côté d'Arromanches. Il était certain que le débarquement était imminent en janvier et février, mais il ne pensait pas que ça attendrait juin. Et à ce moment-là, il a fait, je crois, ce qu'on lui a beaucoup reproché en disant « c'était par étourderie ». C'est là que je voudrais rectifier, c'est pas du tout par étourderie qu'il faisait une espèce de propagande idéologique en disant « ils sont foutus, moi je résiste », etc. Dans les bistrots, au Flore, il avait effrayé quelques intellectuels plus prudents. Mais c'était une manière de réveiller l'esprit de résistance chez les gens en disant « il faut se préparer ». Et en particulier, dans la cour de son immeuble 19 rue Mazarine, il avait accepté qu'on entasse des armes et des munitions. Et comme il y avait un pétainiste dans l'immeuble, il était allé le voir, paraît-il, et lui avait dit « voilà, il y a des munitions, là vous le savez, etc. » Mais il s'était entendu avec cet homme qui ne supportait pas lui non plus l'occupation de Paris. Ça montre très bien comment les énergies pouvaient être liées. Et c'est bien ce qu'il pensait, que les énergies pouvaient être liées. Et ce n'est pas pour rien qu'on a appris assez récemment par M. Matthiessen. Desnos avait été contacté pour être le porte-parole de l'action de Jean Moulin pour la Fédération des réseaux de résistance.
Robert Desnos est donc arrêté en février 44. Au moment de l'arrestation, Desnos se laisse arrêter probablement aussi parce qu'il ne veut pas que rien n'arrive à Yuki. Il réussit à faire s'évader par les toits Alain Brieux, qui est le jeune qui devait partir au STO et qui l'abritait chez lui. On l'a prévenu que la Gestapo allait venir, puisque une de ses secrétaires a vu arriver la Gestapo au journal. Elle lui passe un coup de fil en lui disant « ils viennent vous arrêter, filez », et Desnos ne file pas. Desnos est donc envoyé au camp de Royallieu à Compiègne, et c'est à partir de ce moment-là que Yuki essaye de le faire libérer. Et là, on peut dire certainement que si ça n'est pas Céline qui a fait partir en camp Desnos, en tout cas un journaliste collaborateur qui s'appelait Alain Lobro a été pour beaucoup dans le fait que Desnos ne soit pas libéré, puisque
même Yuki avait réussi à avoir une entrevue avec le décideur allemand
avec
qui
Abetz,
était prêt, pratiquement Abetz, qui ouais. avait réussi à faire libérer. Mais au dernier moment, chez Maxime, alors que les Allemands disaient qu'ils allaient libérer un grand poète français, eh bien, Alain Lobro a dit non, il n'est pas question, c'est un communiste.
Il faut le maintenir. Voilà. Donc Desnos est gardé au camp de Compiègne. À Compiègne, il se fait remarquer comme un remarquable animateur de débat. Le camp de Compiègne n'est un camp de regroupement pour l'instant, ça n'est pas vraiment un camp de concentration violent comme sont les camps allemands. Là, toutes sortes de gens en ont témoigné. Il anime des débats, il est causerie sur toutes sortes de sujets philosophiques, littéraires. Et puis, à un moment, il est embarqué.
Et il écrit même.
Il écrit Sol de Compiègne. Il écrit ce très beau texte, Sol de Compiègne. Et puis, il est embarqué, donc, avec André Verdet d'ailleurs, pour Auschwitz. Il part donc de Compiègne à Auschwitz. Quand il arrive à Auschwitz, se passe une scène absolument extraordinaire dont témoigne André Verdet. Tous ces hommes sont jetés des wagons, comme on sait, les cris des chiens, l'odeur des fours. Ils comprennent très vite qu'ils sont amenés là à la mort. Et au bout d'un moment, dans cette
colonne de gens prostrés, que Desnos commence à avancer lentement, allant de l'un à l'autre, lui prenant la main, commence à lire dans les lignes de sa main, inventant à chacun son avenir. On sait que Desnos a pratiqué beaucoup ces espèces de prophéties, son côté médium, et il va se servir de cette capacité, ou en tout cas jouer de ça, pour être constamment à remonter le moral des troupes d'une certaine manière. Et Verdet dit, j'ai vu tout d'un coup dans cette colonne des gens, le regard des hommes se transformer. Et il va se passer cette chose encore plus extraordinaire, c'est que Desnos ne meurt pas à Auschwitz. Le convoi dont faisait partie Desnos repart d'Auschwitz et il va arriver à Buchenwald. Et c'est là qu'il va rester au moins une année. Il est sauvé par la complicité de tas de gens, parce qu'évidemment, Desnos est un caractère absolument indomptable. Il vient même une fois, après avoir demandé qu'on rajoute un petit bout de patate dans sa soupe qui n'est que de l'eau chaude. Les soupes sont servies par les mignons des capots. Le mignon lui crache dans sa soupe et à ce moment-là, Desnos lui envoie sa gamelle à la figure. Alors évidemment, ça lui vaut d'être battu avec une très grande violence. Et d'ailleurs, le capot lui dit « Si mon mignon ne survit pas, tu ne survivras pas non plus. » Ça montre bien ce caractère complètement entier, inébranlable, capable d'affronter le pire de Desnos dans ces moments-là. Donc on réussit à lui mettre un balai dans les mains parce qu'évidemment, il se déclare mordicus homme de lettres quand on lui demande qu'est-ce qu'il est, donc un traducteur qui sympathise avec lui traduit immédiatement balayeur, et donc Desnos survit comme balayeur. Et puis il est tout le temps là à raconter des histoires absolument extraordinaires, à dire des textes dont il se souvient parce qu'il a une mémoire phénoménale, et des gens qui étaient des tout jeunes à l'époque, comme M. Bessières qui a écrit un livre entier, compagnon de déportation de Desnos, atteste cette capacité à constamment mettre l'imaginaire en avant, à émerveiller ses compagnons et à consacrer tous les soirs une heure pour recevoir en consultation ceux qui voulaient qu'on leur lise la bonne aventure, si on peut appeler cette aventure bonne.
Et ensuite, après Buchenwald, il arrive à Floa.
Il arrive à
Floa. Qui construit des carlingues de Messerschmitt. De Floa, il arrive à écrire plusieurs fois à Yuki.
Dans cette histoire, il faut s'imaginer aussi pourquoi tout d'un coup il repart de Floa vers Térésine qui va être sa dernière destination. Eh bien c'est parce que on est quand même en 45, l'armée nazie est en pleine débâcle. Alors est-ce que des soldats se couvrent avec des otages, disons, déportés par rapport à l'avancée des alliés? Est-ce pas aussi une façon de se justifier par rapport à leur hiérarchie et à dire administrativement, voilà, on a tel convoi emmené un peu plus à l'intérieur des terres vers l'est? C'est bien possible. En tout cas, là commence une marche terrifiante à travers dans le froid de l'hiver 45, puisqu'on est au mois de avril, il fait encore très très froid, c'est la neige. Desnos est atteint de dysenterie, il est porté par ses camarades, on finit par le mettre sur un camion, et c'est presque un miracle qu'il arrive jusque là, parce que les nazis ne s'embarrassaient pas trop de nettoyer à la mitraillette tous les malportants. Et finalement, il va arriver à Térésine, qui est sa dernière destination, et il va être découvert quelques jours. Donc il survit à la libération du camp, mais il n'y survit que quelques jours, et il se trouve, pour adoucir un petit peu cette fin de Desnos, que parmi les gens, le personnel de la Croix-Rouge qui assiste ces personnes qui sont dans un état de délabrement physique extrême, il y a deux étudiants qui connaissent les textes de Desnos. Et quand l'un d'eux voit sur le registre Robert Desnos, il dit, est-ce que, il s'avance près de cet homme qui est moribond en disant, est-ce que vous avez un rapport avec le poète français Robert Desnos? Et Desnos dit, je suis ce poète. Donc évidemment, les derniers jours, on va essayer d'adoucir sa fin, et ces deux étudiants témoigneront de la façon dont il continue, dès qu'un petit peu de souffle de force lui revient, à raconter des histoires sur le beau Paris.
Tu portais dans ta voix comme un chant de Nerval, quand tu parlais du sang, jeune homme singulier. Scandant la cruauté de tes vers réguliers, le rire des bouchers t'escortait dans les halles. Tu avais en séjour ces accents de gageure que j'entends retentir à travers les années. Poète de 20 ans d'avance assassiné, et que vengeait déjà le blasphème et l'injure, je pense à toi, Desnos, qui partit de Compiègne. Comme un soir en dormant, tu nous en fis récit. Accomplir jusqu'au bout ta propre prophétie. Là-bas où le destin de notre siècle saigne. Debout sous un porche, avec un cornet de frites, te voilà par mauvais temps, près de Saint-Méry. Dévisageant le monde, avec effronterie, de ton regard pareil à celui d'Amphitrite. Énorme et palpitant d'une pâle buée, et le sol à ton pied comme au sein nu l'écume. Se couvre de mégots, de crachats, de légumes, dans les pas de la pluie et des prostituées. Je pense à toi, Desnos, qui partit de Compiègne. Comme un soir en dormant, tu nous en fis récit. Accomplir jusqu'au bout ta propre prophétie. Là-bas où le destin de notre siècle saigne.
Desnos est en camp, il continue d'écrire, il écrira jusqu'à la fin. Malheureusement, il ne nous reste rien de ces textes un officiellement récupéré pour y ranger sa brosse à dents ou quelque chose comme ça, une boîte dans laquelle il avait laissé ses derniers textes. On n'a pas les textes de Desnos des camps, mais par contre arrive une petite aventure qui a quelque chose d'assez mythique. C'est le fait que quand Desnos meurt à Térésine, les Tchèques, qui sont des gens de grande culture, vont rendre hommage à Desnos en publiant dans un journal très important un texte de Robert Desnos. Et ce texte, eh bien, c'est la traduction de la dernière strophe du poème « À la mystérieuse » qu'il avait écrit en 28 pour Yvonne Georges. Ce texte est publié. On apprend évidemment en France aussi que Desnos est mort. Yuki le cherche partout, finalement, on lui apprendra que Desnos est mort. Il y a une attestation de cette mort qui est assez terrible. Un employé tchèque qui est chargé d'incinérer les corps écrira d'ailleurs « Moi, je ne me souviens plus son nom, j'ai brûlé le poète Robert Desnos avec son langage maladroit. » Et on va rendre, ce qui est un peu une distinction, alors qu'en général les cadavres étaient brûlés à plusieurs, on va rendre les cendres de Desnos à part, qui ont été recueillies à part à Yuki. Et évidemment, là, l'émotion est grande en France. Quelqu'un aux lettres française va republier ce texte qui arrive de Tchécoslovaquie en disant « On a retrouvé le dernier poème de Robert Desnos ». Donc ce poème va paraître de cette manière-là et tout le monde va dire « C'est extraordinaire, il a encore écrit ce texte ». Bon, alors nous n'avons pas eu le temps là de passer une interview de Marie-Claire Dumas, un bout d'interview dans lequel elle racontait beaucoup mieux que moi cette histoire. Mais en tout cas, il y a quelque chose finalement d'assez beau dans le fait que ce poème qui n'est pas le vrai poème de départ, a quand même été gravé dans la pierre, puisqu'il figure au mémorial de la déportation dans l'île Saint-Louis. C'est ce texte qu'on a mis. Et ce texte-là, finalement, Desnos n'aurait pas désavoué son destin, puisque Desnos aimait être au fond une voix collective et peut lui importer de mettre son nom au bas des lignes à partir du moment où il incarnait quelque chose qui était commun à tout un esprit de résistance.
J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité. Est-il encore temps d'atteindre ce corps vivant et de baiser sur cette bouche la naissance de la voix qui m'est chère? J'ai tant rêvé de toi que mes bras, habitués en étreignant ton ombre, à se croiser sur ma poitrine, ne se plierait pas au contour de ton corps, peut-être. Et que devant l'apparence réelle de ce qui me hante et me gouverne depuis des jours et des années, je deviendrai une ombre sans doute. Oh, balance sentimentale, j'ai tant rêvé de toi qu'il n'est plus temps sans doute que je m'éveille. je dors debout, le corps exposé à toutes les apparences de la vie et de l'amour. Et toi, la seule qui compte aujourd'hui pour moi, je pourrais moins toucher ton front et tes lèvres que les premières lèvres et le premier front venu. J'ai tant rêvé de toi, t'en marcher, parler, coucher avec ton fantôme, qu'il ne me reste plus peut-être, et pourtant, qu'à être fantôme parmi les fantômes, et plus ombre cent fois que l'ombre, qui se promène et se promènera allègrement sur le cadran solaire de ta vie.
Juillet 1944. Mon amour, notre souffrance serait intolérable si nous ne pouvions la considérer comme une maladie passagère et sentimentale. Nos retrouvailles embelliront notre vie pour au moins 30 ans. De mon côté, je prends une bonne gorgée de jeunesse. Je reviendrai rempli d'amour et de force. Pendant le travail, un anniversaire, mon anniversaire, fut l'occasion d'une longue pensée pour toi. Cette lettre parviendra-t-elle à temps pour ton anniversaire? J'aurais voulu t'offrir 100 000 cigarettes blondes, 12 robes des grands couturiers, l'appartement de la rue de Seine, une automobile, la petite maison de la forêt de Compiègne, celle de Belle-Île, et un petit bouquet à 4 sous. En mon absence, achète toujours les fleurs, je te les rembourserai. Le reste, je te le promets pour plus tard. Mais avant toute chose, bois une bouteille de bon vin et pense à moi. J'espère que nos amis ne te laisseront pas seul ce jour. Je les remercie de leur dévouement et de leur courage. J'ai reçu il y a une huitaine de jours un paquet de Jean-Louis Barrault. Embrasse-le ainsi que Madeleine Renaud. Ce paquet me prouve que ma lettre est arrivée. Je n'ai pas reçu de réponse, je l'attends chaque jour. Embrasse toute la famille, Lucienne, tante Juliette, Georges. Si tu rencontres le frère de Passeur, adresse-lui toutes mes amitiés et demande-lui s'il ne connaît personne qui puisse te venir en aide. Que deviennent mes livres à l'impression? J'ai beaucoup d'idées de poèmes et de romans. Je regrette de n'avoir ni la liberté ni le temps de les écrire. Tu peux cependant dire à Gallimard que dans les 3 mois qui suivront mon retour, il recevra le manuscrit d'un roman d'amour, d'un genre tout nouveau. Je termine cette lettre pour aujourd'hui. Aujourd'hui, 15 juillet, je reçois 4 lettres de Barrault, de Julia, du docteur Benet et de Daniel. Remercie-les et excuse-moi de ne pas répondre. Je n'ai droit qu'à une lettre par mois. toujours rien de ta main, mais il me donne des nouvelles de toi. Ce sera pour la prochaine fois. J'espère que cette lettre est notre vie à venir. Mon amour, je t'embrasse aussi tendrement que l'honorabilité l'admet dans une lettre qui passera par la censure. 1000 baisers. As-tu reçu le coffret que j'ai envoyé à l'hôtel de Compiègne ? Robert.
L'oiseau du Colorado mange du miel et des gâteaux, du chocolat, des mandarines, des dragées, des nougatines, des framboises et des roux-toutous, de la glace et du caramel. Mouh ! L'oiseau du Colorado boit du champagne et du sirop, suc de fraises et lait d'autruche, jus d'ananas glacé en cruche, sang de pêche et sang de navet, du whisky, de la menthe et du café.
Ainsi, sur cette voix enfantine qui chantait « L'oiseau du Colorado » de Robert Desnos, s'achève ce tour avec la vie de ce grand résistant, grand voyant, grand imaginateur. Je dois remercier mes camarades de la Bible qui étaient à mes côtés, Patrick Vendrin, Marc Pastor, Charo Beltran, Marc Na et Yves Flanck. Merci également aux musiciens qui jouent. D'ailleurs, je devrais citer ces merveilleux musiciens qui nous offrent l'indicatif, qui sont le trio Hadouk avec Steve Sheehan, Loy Erlich et Didier Malherbe. Voilà, leur nom m'échappait. Les musiques étaient de Richard Galliano, Chris Gonzalez interprétait magnifiquement La Rue Noire, sa gueule dans La Rue Noire, Chantal Galliana, Les Roses de Bagatelle, Jean Ferrat, Je pense à toi, Robert le Diable, pardon, c'est le titre du texte d'Aragon, et votre serviteur, comme on dit, j'ai tant rêvé de toi, ainsi que l'histoire d'un chameau, et enfin, c'est Goran Bregovic qui avait composé la magnifique musique de Erdélési. Erdélési, ça veut dire, pour les gitans, ça veut dire la grande fête du printemps. Voilà. Et ça finit bien, je trouve, ce périple avec Robert Desnos, puisqu'il est mort au printemps, mais son dernier mot, c'était de dire je vis mon matin le plus matinal. Et c'était à la fin du printemps. Au revoir, Robert Desnos.